le magazine des Nations Unies.
Trois enquêteurs des Nations Unies bientôt dans l'ex-Grand Kassai pour des investigations sur les massacres et autres violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Le gouvernement congolais appelé à être coopératif pour faciliter notamment les visites et l'accès de ses experts au pays, aux sites et aux témoins. Au moins 2800 violations des droits de l'homme enregistrées de janvier à juin 2017 en RDC, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. 58% des violations seraient l'œuvre des agents étatiques. Enfin, encore un afflux de nouveaux réfugiés dans le nord, le nord-est et l'est de la RDC, avec notamment plus de 57 000 nouveaux réfugiés centrafricains qui ont franchi la frontière congolaise en juin dernier. Les détails dans ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. Trois experts internationaux sont chargés d'enquêter sur les informations faisant état d'une vague de violences, violations et d'abus graves et flagrants des droits humains ainsi que des violations du droit humanitaire international dans les régions du Grand Kassai. La nomination de ces personnalités est intervenue mercredi 26 juillet 2017. Honoré Missenga Kalala nous fait le point sur cette nomination.
Les trois experts sont le Sénégalais Bakr Ndiaye, le Canadien Luc Côté et la Mauritanienne Fatimata Mbaye. Ils ont été nommés mercredi dernier par le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein. Et cela conformément à la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 22 juin 2017, préoccupé par la situation sécuritaire et humanitaire prévalant dans l'ex-Grand Kassai. Les trois enquêteurs de l'ONU ont donc pour mission de collecter et de préserver les informations ainsi que de déterminer les faits et les circonstances sur les allégations des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international dans cette région depuis la crise de la milice Kamuinasa. Et dans un deuxième temps, ils devront transmettre leurs conclusions aux autorités judiciaires de la RDC et s'assurer que les auteurs de ces violations rendent compte à la justice congolaise. La résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande aussi aux experts onusiens de coopérer avec le gouvernement congolais tout au long de leurs investigations, tout en s'assurant la protection de toutes les personnes qui collaboreront avec leur équipe. Au bout de la chaîne, le haut-commissaire Zeid présentera le travail des experts envoyés dans l'ex-Grand Kassai en deux temps. Un rapport oral lors de la 37e session du Conseil des droits de l'homme en mars 2018 et une présentation complète sur les conclusions des experts lors de la 38e session du même Conseil des droits de l'homme en juin de la même année.
Toujours dans le même chapitre des droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, a documenté 2800 violations de droits humains pendant le premier semestre de 2017 en République démocratique du Congo. Information livrée par le directeur de cette institution onusienne, José Maria Aranaz. C'était mercredi dernier au cours de la vidéoconférence de presse des Nations Unies. Les détails, une fois encore, avec vous, Honoré Missenga Kalala.
2800 violations des droits humains pour le bureau conjoint, ces chiffres sont supérieurs à ceux du premier semestre de 2016. Et de ces violations, la source fait part des 884 assassinats dans les territoires affectés par les conflits, 210 victimes de violences sexuelles, toujours dans les mêmes zones en conflit, et 430 violations liées à l'espace démocratique. Le bureau conjoint précise que les agents étatiques sont responsables de 58% de toutes ces violations, dont 25% attribués à ceux de la police nationale congolaise. Et dans ce tableau, 591 victimes d'exécutions extrajudiciaires l'ont été par les agents de la police nationale congolaise, contre 527 par les forces armées de la RDC. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme salue néanmoins les efforts entrepris par les autorités congolaises pour combattre l'impunité au sein des forces de l'ordre du pays. 104 militaires FARDC et 20 éléments de la police nationale congolaise ont été condamnés pendant ce premier semestre à différentes peines pour violation des droits humains.
Autre fait d'actualité de la semaine, plus de 57 000 nouveaux réfugiés centrafricains ont été répertoriés en juin dernier par la Commission nationale des réfugiés. C'est un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACER, publié la semaine dernière, qui l'affirme. Ce même rapport constate également dans le nord-est et dans l'est du pays l'afflux des nouveaux réfugiés sud-soudanais et burundais. Jean-Pierre Elali Koko.
Selon les rapports mensuels du mois de juin, un peu plus de 57 000 nouveaux réfugiés centrafricains ont traversé la frontière, fuyant les violences dans leur pays. Ils ont été enregistrés en RDC par la Commission nationale pour les réfugiés et la Direction générale des migrations. Ces nouveaux réfugiés sont en majorité localisés dans la province du Nord Ubangi. Par ailleurs, la CNR a décidé les transferts de 74 demandeurs d'asile qui attendaient la régularisation de leur statut de réfugié du centre de transit de Batanga au camp de Boyabou. Au sud Kivu, au moins 30 000 réfugiés burundais vivent dans les camps de Lucenda, dont 61% sont des mineurs. 219 d'entre eux ont été relocalisés de Lucenda vers les sites de transit de Katungulu 1 et 2. 1280 réfugiés sud-soudanais ont été enregistrés pendant cette période, un peu moins qu'en mai et avril dernier. Enfin, il faut noter que sur les 236,2 millions de dollars attendus de bailleurs de fonds pour l'exercice de 2017, le ACER n'a reçu jusqu'en juin dernier que 38 millions, soit 16%.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons ce dimanche sur l'entretien que Madame Inès Lezama, chef de la section nutrition à l'UNICEF RDC, a eu avec Jean-Pierre Elali Ikoko sur la malnutrition chronique. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain le 16 juin dernier. 6 millions d'enfants sont en situation de malnutrition chronique chaque année en RDC. L'UNICEF a choisi cette journée pour sensibiliser les hommes et les femmes des médias sur l'ampleur que prend ce phénomène, malgré les efforts menés dans le pays. Je vous propose donc de suivre cet entretien.
Madame Inès Lezama, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de la présence des journalistes aujourd'hui au siège de l'UNICEF?
Oui, on est ici parce qu'il s'agit de la célébration de la journée de l'enfant africain. Mm-hmm. Et cette année, le thème a été consacré à la malnutrition chronique, chez l'enfant notamment, qui est un fléau qui affecte pas mal d'enfants, au total de 6 millions d'enfants malnutris chroniques en RDC. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous, les journalistes, pour essayer de vous expliquer quelle est la problématique et voir quelles sont les actions qu'on peut tous mener pour attirer l'attention des publics en général, mais aussi des institutions et des responsables.
Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous parlez de la malnutrition aiguë, mais il y a aussi la malnutrition chronique, les différences entre les deux pour les communs mortels?
Oui, il y a plusieurs types de malnutrition et nous, les nutritionnistes, on a tendance à les utiliser de manière très facile, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Ici, on parle de deux types qui sont peut-être les plus présentes en RDC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres types. Donc, la première qui est la malnutrition chronique, ça veut dire un enfant qui a une taille plus petite par rapport à son âge. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi, c'est un retard de croissance, il n'a pas grandi de la manière qu'il devait. Il n'est pas visible puisqu'on ne voit qu'un enfant peut-être de 8 ans qui peut avoir la même taille qu'un enfant de 21 mois ou de 36 mois. Et on peut voir que c'est un enfant court par rapport à son âge. Et on n'y pense pas qu'il est malnutri, mais en réalité, il est malnutri. Cette idée de malnutrition, il cache en réalité d'autres problèmes qui sont plus graves. C'est en tête de développement de son cerveau. Cet enfant, il sera réduit. Sur le plan intellectuel, il y a des évidences qui prouvent que ces enfants, en plus d'être courts par rapport à leur âge, ils ne développent pas le cerveau comme il faut. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se développer de manière cognitive et ils vont avoir des problèmes pour aller à l'école, ils vont avoir des problèmes à l'âge adulte pour produire comme une personne, puisqu'ils vont gagner moins de ressources aussi pour leur famille. Donc c'est ça qu'on appelle la malnutrition qui est un peu silencieuse parce qu'on ne la voit pas. Et après on a un autre type de malnutrition qui est la malnutrition aiguë, qui peut être des formes sévères ou modérées, qui est celle qui arrive à une population qui est dans un état de choc. Ça veut dire qu'il y a eu par exemple une maladie, un pic de palu qui fait, de manière globale, qui fait que ces enfants ont été malades ou bien ils ont eu moins d'alimentation et qui deviennent tout maigres et ils sont des enfants malnutris aigus.
C'est le type de malnutrition les plus connus en RDC.
Il est le plus connu parce que c'est lui qu'on le voit plus. Donc il nous frappe plus à la vue. Et on a tendance tous, pas seulement en RDC, dès qu'on voit un enfant tout maigre, de dire ah, il est malnutri. C'est qu'on veut montrer qu'il y a d'autres types de malnutrition aussi, qui ne sont pas visibles, qui ne frappent pas autant, mais qui ont aussi des conséquences assez importantes.
Et vous venez de parler des différents types de malnutrition. Est-ce qu'on peut en connaître un peu l'état des lieux en République démocratique du Congo par rapport aux autres pays africains, par exemple les pays limitrophes?
On sait qu'on est le 15e pays au monde en termes de prévalence des malnutritions chroniques. Ce que ça veut dire que parmi tous les pays du monde, la RDC, c'est les top 15, okay, en termes de ces taux de malnutrition chronique. Et on est 7e en Afrique. Si on fait nos calculs en base de nombre d'enfants affectés, on est parmi aussi le premier, parce qu'on a 6 millions d'enfants malnutris chroniques en RDC chaque année. Et ça, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Ce n'est pas un problème nouveau. Depuis 1995, il y a eu quand même une petite réduction en termes de taux, mais très faible. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire pour éradiquer ces problèmes, il n'est pas suffisant. Quelque part, on n'est pas en train d'arriver à toucher ces enfants.
Et comment faire? Parce qu'il y a des programmes qui existent, il y a des plans, même sur le plan national, qui existent, mais on n'y arrive pas, madame. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant?
Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le pays en termes d'engagement politique pour pouvoir éradiquer ces problèmes, d'adhésion à des mouvements globaux. Il y a une politique, il y a un plan stratégique. Maintenant, il faut mesurer son niveau de mise en œuvre. Est-ce que les investissements qui ont été faits sont suffisants? Est-ce qu'on est en train d'arriver à la population qui en a besoin? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'aller au milieu rural, là où il y en a plus de besoins, ou on est en train de se focaliser surtout dans certaines zones et pas d'autres? Donc, c'est beaucoup des questions que nous-mêmes, on se pose. Mais notre conclusion, c'est que les efforts ne sont pas encore suffisants et qu'il y a beaucoup à faire. Il faut répéter aussi que ce n'est pas une action de nutrition qu'il faut ou d'alimentation qu'il faut pour réduire la malnutrition chronique. Il faut qu'un enfant il ait accès aux soins de santé, qu'il ne soit pas malade. Il faut qu'un enfant il ait accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement. Il faut réduire la pauvreté pour que ces familles puissent nourrir tous les enfants. Et il faut aider les femmes aussi et les hommes, enfin les ménages, à pouvoir prendre soin bien de ces enfants, y compris tout ce qui est les stimulations précoces des enfants, les jeux et les soins, etc.
Voilà. Et pour terminer, madame, je voudrais demander l'implication de l'UNICEF. Vous avez dit que les efforts sont faits, mais il y a beaucoup à faire. Et qu'est-ce que l'UNICEF peut apporter concrètement dans l'effort collectif du gouvernement?
Bon, l'UNICEF, il se focalise surtout chez les enfants. Il y a d'autres partenaires qui travaillent plus chez les femmes, au niveau de l'agriculture, mais l'UNICEF, et tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est fournir un service, un paquet de services de nutrition, de santé, d'eau auprès des ménages, au niveau de la communauté, mais aussi au travers des systèmes de santé.
Qu'est-ce que vous fournissez dans les centres de santé pour lutter justement contre la malnutrition? Est-ce qu'on peut trouver ça?
On peut trouver pas dans tous les pays, c'est ça le problème. On n'a pas de ressources suffisamment pour couvrir tous les pays avec toutes les interventions. Mais on essaye de couvrir le maximum possible. Okay, donc on a des interventions d'appui, de suivi de la croissance de l'enfant, ça veut dire à travers les centres de santé. Ils font des consultations préscolaires des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans pour suivre sa croissance.
Ici à Kinshasa, où est-ce que vous le faites?
Il y a plusieurs centres de santé, maintenant je ne vais pas vous citer tous les noms, mais il y en a plusieurs dans lesquels on a certaines interventions. Nous focalisons nos efforts au niveau rural, dans les zones dans lesquelles il y a plus des problèmes de malnutrition chronique. Quoique on ne peut pas oublier la grande ville parce que le problème existe également, mais en train de priorisation, on doit aller dans les zones dans lesquelles il y a plus de problèmes d'équité. On a Sud Kivu, mais on a toute la zone sud aussi au niveau des Kasaï, on a le Nord Kivu, à la Tchopo aussi, on est aussi au Bandundu, on est dans plusieurs provinces, je ne peux pas toutes les citer.
Selon l'UNICEF, quelle est la province la plus marquée par la malnutrition des deux types?
Bon, ce n'est pas l'UNICEF, c'est selon les enquêtes nationales. Hein,
oui,
mais on a notamment les zones du Kivu qui ont plus de nombre de cas.
Et pourtant, c'est les greniers de la RDC lorsqu'on voit les choses.
C'est ça qui est un peu paradoxal, en fait. C'est qu'on a tendance à penser que quand c'est disponible, on l'utilise. Et je pense que c'est là où il y a des grandes différences. Il faut aller voir au-delà de la production, il faut aller voir ce qui se passe dans le ménage et pourquoi les enfants n'arrivent pas à consommer ce qu'il faut, le ménage. Parfois, les familles sont obligées de vendre leur production pour s'en sortir. Donc, c'est l'utilisation au sein des ménages qui est important. Comment on répartit cette nourriture, comment on alimente et on nourrit son enfant.
Madame Inès Lesama, merci.
Merci à vous.
Et puis en bref, commençons avec cette bonne nouvelle, le service humanitaire PAM UNAS accroît ses services aériens dans la région du Kasaï pour répondre aux besoins énormes des populations déplacées dans cette région. Un avion de type caravane est affecté à Kananga de façon permanente pour que les acteurs humanitaires disposent d'une plus grande mobilité au service des personnes déplacées. Ainsi, UNAS RDC dessert désormais deux nouvelles destinations à Lusambo et Ilebo deux fois par semaine et propose de vols Kananga Chikapa Mbujimayi et retour tous les jours ouvrables de la semaine. Restons dans les Kasaï pour parler santé. Plus de 130 cas suspects de méningite enregistrés dans la province du Kasaï, précisément dans la zone de santé de Boulapé et Mweka. Les autorités et les acteurs humanitaires s'inquiètent de la très nette augmentation du nombre de cas suspects depuis mi-avril. Faute de kits de prélèvement disponibles, la division provinciale de la santé ne peut déterminer s'il s'agit bel et bien d'une épidémie de méningite. Et puis dans l'est du pays, à Beni, la section des affaires civiles de la MONUSCO Beni Boutembo Lubero a remis le 19 juillet 2017 des panneaux solaires et du matériel informatique et internet à la coordination de la société civile du territoire de Beni. Ce projet impact rapide vise à renforcer l'impartialité et l'indépendance des organisations de la société civile en renforçant leurs capacités opérationnelles.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La femme congolaise a sa place et doit garder espoir. Appel de la directrice régionale de l'ONU Femmes pendant le séjour en RDC de la délégation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies dont elle a fait partie la semaine dernière. En marge de cette visite, Madame Diana Ofwana a répondu aux questions de Mimi Ngumba à Mulongo. Suivez leur entretien.
Madame Diana, bonjour.
Bonjour.
La délégation arrivée de New York a fait mention d'un progrès dans le cadre du combat contre les violences sexuelles en RDC. Quels sont les indicateurs qui vous aident à faire une telle évaluation?
Si vous vous rappelez bien, en 2000, l'envoyé spécial du secrétaire général pour les violences sexuelles est venu en RDC. Il a décrit la RDC comme étant le capital du monde pour les violences contre les femmes, les violences surtout sexuelles. Ce n'est plus le cas. Et on félicite vraiment la volonté politique pour mettre fin à ce fléau. Malheureusement, c'est un fléau fait contre les femmes. Quand on est victime, on ne peut pas soi-même avoir la force de lutter contre ce fléau qui vous fait très mal psychologiquement, dans votre corps, dans la santé, dans la famille. Il incombe des dirigeants, de dire une fois pour toutes non à l'impunité.
Oui, vous dites qu'il y a progrès dans ce sens, mais en même temps, vous militez pour une violence zéro carrément. Quelle peut être la responsabilité des uns et des autres, justement?
La première responsabilité, c'est d'accélérer les investigations et de rendre coupables les gens qui sont en train de faire les malfaiteurs, quoi. C'est la toute première des choses. La justice, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est la réparation. La réparation. On ne peut pas demander à une femme victime de viol et de tout abus sexuel de payer elle-même qui a été abusée les frais pour un avocat, pour payer le carburant pour la voiture, pour qu'on puisse faire l'investigation. Ça, c'est une deuxième humiliation. Ça la rend encore plus pauvre. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et donner tout appui holistique. Justice, service holistique aux victimes d'abus sexuels. Plaidoyer contre ce fléau, c'est très important. Il faut qu'on sache qu'on est très sérieux à arrêter, à mettre à zéro les violences faites contre les femmes. Et finalement, il faut les réintégrer dans la société. C'est extrêmement important. On peut appeler ça les réparations, on peut appeler ça par un autre nom, mais le plus important, qu'elles soient réintégrées dans la société. Ce n'est pas de leur faute qu'elles ont subi ces humiliations, ces abus, que leur vie a changé, qu'elles se sentent à 100% dans la société. Mais c'est à nous de faire deux choses, de mettre à fin et à zéro les abus sexuels et toute forme de violence à l'égard de la femme. Et deuxièmement, de lui rendre sa pleine dignité et la pleine participation dans la vie politique, économique et sociale du pays.
Vous parlez justement de l'implication de la femme dans la vie politique et maintenant il s'agit du processus électoral qui est déjà en cours. Est-ce que pour ça, ça ne demande pas l'engagement personnel de la femme?
Tout d'abord, c'est un engagement personnel. Tout citoyen a l'obligation de prendre soin de son pays parce que c'est son pays. C'est l'héritage que la personne laissera à ses enfants. Donc, on a droit à faire part. Il y a l'engagement personnel, il y a l'agenda pour le développement, mais il y a aussi le soutien. Toute personne qui veut être dans la politique cherche un soutien ou un autre. Ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien politique, mais il y a lieu à soutenir surtout les femmes qui n'ont pas l'habitude d'être dans la politique parce que ce n'est pas de leur faute. Mais c'est structurel. Parfois, ce sont les lois qui les bloquent. Parfois, c'est la volonté politique. Mais elles ont une place. Elles ont un devoir de prendre part et de participer dans la vie politique de leur pays. Et nous sommes là pour les aider à le faire.
Et face au tableau politique, social, économique, pensez-vous qu'il y a lieu que la femme congolaise continue à garder espoir?
Bien sûr, bien sûr. On dit toujours que la RDC, c'est le poumon de l'Afrique. Mais les femmes, plus de 50% de la population, elles ont une place. Elles doivent garder espoir, surtout les jeunes qui prendront le relais. Et nous avons absolument espoir parce que nous savons et nous avons vu ce que les femmes ont fait dans ce pays depuis Sun City.
Madame Diana, je vous remercie.
Merci bien.
Notre nouvelle des provinces nous amène à Bukavu, au sud Kivu, pour vous annoncer que le commissariat provincial de la police nationale congolaise s'est doté de 5 conteneurs équipés notamment des panneaux solaires, des meubles, des convertisseurs et des 2 coffres-forts. Il s'agit là d'une dotation de la MONUSCO à travers sa section des déminages UNMAS. La remise a eu lieu mardi 25 juillet dernier à la place Niawera dans la commune d'Ibanda. Écoutez à cet effet le chef des bureaux de la MONUSCO Bukavu, Kamasoro, au micro d'Emmanuel Elamegi.
Au nom du représentant spécial du secrétaire général, je vous remets les clés donc de ce petit bijou qui, à mon sens, est vraiment très important. On voit tout ce qu'il est situé à un endroit stratégique et je voudrais donc vraiment encourager les agents qui sont ici à faire vraiment un bon usage de ça et surtout dans le strict respect des droits de l'homme. Ici, ce n'est pas une cellule, ce n'est pas une unité de détention. Donc c'est très important que ceux qui travaillent ici soient vraiment les porte-flambeaux des droits de l'homme pour nous assurer que les populations sont en sécurité et dans le respect de leurs droits. Je voudrais aussi remercier le partenaire d'exécution, l'UNMAS, qui est le partenaire technique, donc qui ont fait l'ensemble de ce travail en un temps record. Nous allons continuer avec l'installation des autres containers dans les jours à venir. En principe, il me semble qu'il y en a 9. Il y en a 9, mais il y a déjà 5 qui vont être positionnés.
Le commissaire provincial, le général Karawa, a également réagi toujours au micro d'Emmanuel Elamegi.
C'est un honneur pour moi d'inaugurer l'un des 5 conteneurs que la MONUSCO a mis à notre disposition pour les sous-commissariats. Et nous ne pouvons que remercier la MONUSCO pour tout ce qu'elle fait pour la police, spécialement ici dans le Nord Kivu. Ces conteneurs permettront à ce que les policiers puissent travailler dans de bonnes conditions. Et surtout, ça nous éviterait aussi à ce que dans les endroits reculés où il n'y avait pas la présence de la police, aujourd'hui, comme il y a des conteneurs, ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'avec les 5 conteneurs, ça nous a permis de quadriller tant soit peu la ville. Et nous avions choisi des endroits qui étaient très sensibles. Et avec ces conteneurs, ça va nous aider vraiment à bien travailler. Les conteneurs ne sont pas conçus pour servir de cachot. Non, il n'y a pas question de ça. Et puis, le commandant qui osera transformer les conteneurs en un lieu carcéral, on va les sanctionner.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quelle lecture s'est fait la MONUSCO sur la nomination de Joseph Olengankoy à la tête du CNSA? Question posée mercredi dernier. Suivez plutôt cette question ainsi que la réponse de la porte-parole de la MONUSCO, Fabienne Pompéi.
Denis Gouba pour le compte du journal La Prospérité. Ma question, vous vous en doutez certainement, c'est la réaction de la MONUSCO face à la nomination de Joseph Lengankoy comme président du CENSA. Nous savons que la situation qui prévaut en RDC est suivie par la MONUSCO qui appuie notamment la CENI pour l'organisation des élections. Quel est le son de cloche de la MONUSCO par rapport à cette question, monsieur ?
Oui, effectivement, nous sommes informés et nous regrettons que le consensus qui a abouti à la rédaction, à la signature de l'accord de décembre 2016 n'a pas prévalu pour la mise en place du CNSA et sur la manière dont l'accord devrait être mis en œuvre pour aller de l'avant. La MONUSCO continuera à s'acquitter de son mandat de bons offices à l'appui de la mise en œuvre intégrale et consensuelle de l'accord entre ses signataires, ce qui est la seule façon viable d'établir les conditions nécessaires pour organiser les élections, des élections pacifiques et crédibles. En outre, le secrétaire général de l'ONU doit de nouveau faire un rapport sur la mise en œuvre de l'accord au Conseil de sécurité le 15 août prochain, y compris sur les niveaux d'inclusion et de consensus au niveau de la mise en œuvre de cet accord.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Nanambala, je suis à Radio Kapi depuis près de 14 ans. Actuellement, j'évolue au sein de la rédaction sportive de votre radio et je suis reporter sportive et éditrice web également puisque nous mettons également en ligne nos informations sportives que nous diffusons sur les ondes ou d'autres que nous diffusons d'abord sur le web avant de vous le transmettre par la voie des ondes. Donc nous commençons par faire le monitoring avec tous les médias congolais et étrangers et après nous faisons la récolte des informations au moyen de téléphone et également sur terrain par des dictaphones et cela nous permet juste après de voir l'information la plus pertinente, nous les prenons pour le mettre sur le site internet de votre radio, www.radiocapi.net, dans la rubrique sport. Avant de venir à Radio Kapi, j'ai d'abord été à la radio-télévision Kin Malebo, et après, je suis allée à la radio Réveil FM, et après, c'était l'agence presse associée, et puis un bref passage au sein de l'agence France Presse. Et mon temps libre actuellement, c'est plus construit par ma petite fille qui a à peine une année. Donc il m'est vraiment difficile de me déplacer puisque je l'ai tout le temps avec moi. En ce qui concerne la musique, je suis une chrétienne pratiquante et j'écoute souvent la musique chrétienne. Donc les autres, je les écoute, mais pas vraiment ma préférence. Et le sport, je pratique souvent la marche. Je peux faire 10 km par jour sans me fatiguer. Quant à la nourriture, je mange tout ce qui présente devant moi. Si je trouve que c'est bon à manger, je mange. Si je ne le trouve pas, je ne mange pas non plus. Ce n'est pas vraiment compliqué. Hein, si vous m'invitez chez vous, ne vous en faites pas. Je sais aussi de goûter au mets d'autres ethnies pour savoir un peu comment ça se passe. Comme vous le savez, le Congo a une diversité d'ethnies. Donc on essaye de goûter un peu à tout. Et en ce qui concerne le projet d'avenir après Radio Kapi et la MONUSCO, vous avez bien dit que ce sont le projet. Donc je ne peux pas les dévoiler ici devant vous, fidèles auditeurs. Ce serait que je les garde pour moi, puisque c'est un secret, c'est un projet. Donc si je les dis ici, ce ne sera plus un secret pour moi. Donc par là, je peux vous dire un peu de patience. Et la patience également, je vous les demande, de rester toujours branchés sur Radio Kapi. Merci à vous de nous avoir suivis. Maintenant, dans le milieu de Volende Kiviso, Accent Kouayeri. Toi, c'est qui dit là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et puis notez dans vos carnets ces rendez-vous de la semaine du Journal des Nations Unies à New York. Lundi 31 juillet, une séance informelle de la Commission des consolidations de la paix sur la Centrafrique du mercredi 2 au vendredi 4 août. Le comité d'experts du Conseil économique et social se penchera sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale. Et c'est la fin de ce magazine des Nations Unies. Mimi Ngumba Mulongo, Honoré Misenga Kalala, Emmanuel Elamejou Akabedi et Jean-Pierre Elali Ikoko étaient au reportage. Ce magazine a été également coordonné par Jean-Pierre Elali Ikoko. La mise en onde assurée par Bob Landou, moi, Suzanne Zobo-Audra, j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Et merci de nous avoir suivis.